pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Quand on parle d'agriculture, on parle de l'alimentation de tout le monde. On parle de l'eau qu'on met tous les jours dans nos verres. On parle de l'air qu'on respire à chaque instant. On parle de la santé de tous. On parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent public. C'est proprement scandaleux. On piétine et la science et la démocratie. La loi du plomb s'adresse à cette frange d'agriculteurs nantis qui font partie des 20% qui captent 80% des aides. Les 80% d'agriculteurs qui restent doivent se contenter des 20% de miettes que leur ont laissé les gros. C'est 6% d'irrigants, c'est 4,2% qui peuvent bénéficier de l'acétamipride, c'est 3% d'éleveurs sont probablement dans les 20 qui touchent les 80% de la PAC et sont probablement aussi ceux qui pilotent la FNSEA.
FNSEA, puissante fédération agricole, aux ordres de la mafia agro-industrielle qui dicte son agenda au gouvernement et commande les ministres de l'agriculture. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée. Mars 2026, de retour de Mel et des commémorations des 3 ans de la féroce répression policière de Sainte-Soline, où il a évidemment été beaucoup question d'agriculture. Quelle agriculture ? Comme vous allez aujourd'hui l'entendre avec ce montage sur une table ronde organisée par Bassine Non Merci, réunissant scientifiques, politiques, syndicalistes, juristes, militantes et militants, et j'en oublie. Émission très dense, parfois technique, pas facile d'écoute, et qui va vous demander un peu d'attention, mais il va se dire ici des choses terribles et importantes qui nous concernent tous. Car l'agro-industrie est à la manœuvre, notamment sur le juridique, avec la loi du plomb, contre laquelle en 2025 plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition, et c'est reparti pour un tour, Duplomb insiste, et tout aussi menaçante, voici la LUA, loi d'urgence agricole, qui annonce toujours plus de mégabassines, plus de fermes-usines, plus de produits chimiques et cancérigènes, car quand on parle notamment de pollution, parmi les conséquences, il y a des maladies et des malades. Nous sommes tous concernés et menacés par ces poisons. Au cours de cette heure qu'on va passer ensemble à cette table ronde, vous constaterez aussi que les opposantes et opposants aux ravages de cette agriculture industrielle mortifère ne sont pas une bande de joyeux oiseaux ou de pseudo-éco-terroristes qui font et racontent n'importe quoi. Ces anti-bassines et anti-agro-industries sont des gens sérieux qui se basent sur la science et qui luttent pas seulement en manif, mais aussi dans les laboratoires, les syndicats, les tribunaux, les instances de gestion de l'eau, les mairies, les préfectures, jusqu'à l'Assemblée nationale. Adeline, de Bassine Non Merci, ouvre la table ronde.
Bonjour à tous. Eh bien, il y a 3 ans, on était exactement au même endroit. Des milliers de personnes sur Sainte-Soline, autour de la bassine, mais il y avait aussi des tables rondes, des conférences qui étaient organisées, des gens de plusieurs continents qui étaient venus jusqu'à Mel pour organiser des tables rondes, des chorales, des spectacles, une super cantine, une bambinerie à ne pas oublier, et toute une équipe qui était là. Et donc on se retrouve 3 ans après, et c'est l'occasion déjà de remercier la ville de Mel qui nous accueille, mais aussi l'ensemble des agents municipaux et l'ensemble des bénévoles qui, depuis des semaines, se démènent pour pouvoir nous accueillir ici pendant quelques jours. Avant de commencer, je vais vous lire un petit texte qui a été écrit par nos camarades bénévoles de l'équipe Soins. On voulait vous dire qu'on se trouve ici ensemble 3 ans après les événements et que ce n'est pas anodin. Ça peut raviver des souvenirs et des émotions, de se retrouver dans ce lieu-là, de reparler de ce qui s'est passé, et c'est normal. Peut-être qu'au cours de la journée, par moments, vous allez vous sentir ému, en colère, triste. On vous propose d'essayer d'accueillir ces émotions qui arrivent, parce qu'elles sont naturelles, qu'elles n'empêchent pas d'être en même temps des personnes déterminées. Ça peut être utile et important de prendre le temps de reparler avec les gens, de ce que vous avez vécu, de tout repartager, de ce que vous avez ressenti à ce moment-là et ce que vous ressentez maintenant. Digérer ce que l'on a vécu, quand c'est quelque chose d'aussi violent que ce qui s'est passé il y a 3 ans, ça peut prendre du temps. En parler et accepter que ça génère des émotions, c'est prendre soin de soi pour mieux continuer la lutte. Si ces émotions sont encore très fortes, que vous faites encore des cauchemars, que vous sursautez souvent quand il y a des bruits qui rappellent la manif, que vous évitez certains lieux parce que ça vous fait trop peur, bref, que tout ça vous gâche la vie, C'est peut-être le signe que vous êtes en difficulté pour digérer ce que vous avez vécu il y a 3 ans et que vous avez besoin de soins et d'aide. Vous pouvez demander des soins dans les centres régionaux de psychotraumatologie, consulter gratuitement de manière anonyme ou auprès des réseaux de soins militants. Prendre soin de soi, des autres, c'est un élément essentiel de notre lutte. Et donc en effet, notre lutte, elle se base sur le prendre soin de soi-même et sur prendre soin des autres. Elle se base aussi, pas uniquement sur les manifestations, mais aussi sur la montée en compétences, l'échange de connaissances et la réflexion entre nous. Et c'est pour ça qu'on commence la journée aujourd'hui avec une table ronde sur la politique de l'eau. Première partie, état des lieux. Deuxième partie, sur les offensives actuelles de l'État. Troisième partie, sur les moyens de résistance. Pour ça, on a un super panel, puisqu'on a 6 intervenants. Et je me permets une petite remarque, 6 intervenants et une parité. Pour une fois, il y a plus de femmes sur les tables rondes que d'hommes. Nous avons Caroline Proust pour Cancer Colère. Nous avons Benoît Biteau, député à l'Assemblée nationale. Phil Simon pour Bassine Non Merci 37, mais qui siège aussi à la clé Vienne-Tourangelle, avec sa casquette CEPAN, qui fait partie du réseau France Nature Environnement. Nous avons Amandine Paco de la Confédération Paysanne. Anne Morwen-Pastier, qui va nous parler du cycle de l'eau et qui co-porte-parole de Bassine Non Merci. Et enfin, Julien Rivoire, chargé des campagnes agriculture à Greenpeace. Et moi-même, Adeline, bénévole à la Bassine Non Merci. Où en est la situation de Sainte-Soline? Où en est la situation des bassines régionalement? Anne Morwen?
Anne Morwen-Pastier, docteur en sciences de la Terre, hydrogéologue.
En fait, il y a de plus en plus de projets à l'échelle nationale, un modèle qui s'exporte dans d'autres régions. Et donc, on a aussi pas mal de collectifs Bassines Non Merci qui essaiment sur tout l'Hexagone. Très localement, on a une situation qui patine, des problèmes économiques. On a quand même les fonds publics qui ont cessé d'arriver après les différentes mobilisations du mouvement anti-bassine au sens large du terme et qui ont bloqué les nouveaux chantiers. Donc Sainte-Soline est toujours vide. Donc elle a été déclarée illégale parce qu'il manque une dérogation espèce protégée pour la protection d'outarde. Elle n'est toujours pas obtenue. Il faut toujours répéter que c'est quelque chose qui légitime énormément notre lutte que de se dire on s'est pris une répression énorme, tout ça pour une bassine qui au final est illégale. Et on a donc tous ces projets qui essaiment un peu partout. Peut-être on a aussi une diversité des tactiques qui s'observent à l'échelle nationale. On n'est plus dans des très gros projets de millions de mètres cubes, des projets collectifs, on passe à des projets privés, individuels, sur des bassines plus petites qui passent plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a moins d'études d'impact, de choses comme ça à avoir. Donc ça, c'est dans la Vienne et aussi en Charente-Maritime. Soit vraiment les plus riches qui peuvent se payer leur bassin, dans le bassin du Clain, c'est ce qui se passe. Soit évidemment avec ce dont on va parler à un moment, le fonds hydraulique agricole, où là, il y a une opacité totale sur les financements. On a la disparition de la substitution, donc d'arrêter de prélever en hiver uniquement. Bon, bah là, ce qui arrive, c'est qu'ils prélèvent en hiver, plus en été. À l'inverse, on a d'autres endroits, par exemple dans le Cher, où ils ont la stratégie inverse, ils passent de petites bassines individuelles, enfin plus petites, à des gros projets collectifs. Donc on a 8 mégabassines qui seraient en projet dans le Cher, une pôle qui se développe dans le sud-est, dans l'Hérault et le Gard. Il y a un projet dans les Alpes-Maritimes, ou si jamais vous avez des contacts dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas de bassine Non Merci pour contrer ce projet de bassine. C'est des cultures qui sont malheureusement vouées à disparaître, hein, qui veulent faire perdurer à coup de bassine, notamment en se mettant à irriguer la vigne, par exemple. Dans le Maine-et-Loire, dans la Sarthe, il y a des nouveaux projets qui arrivent. L'Indre-et-Loire, il y a eu un premier projet d'un privé qui voulait se faire sa bassine. Il y a un collectif qui s'est monté, qui a commencé une première mobilisation, il y avait 200-300 personnes. Il a retiré son projet de bassine de peur d'avoir un Sainte-Soline. Bon, le projet est revenu récemment, mais il y a à nouveau une mobilisation. Nos luttes payent. Je ne sais pas, dans la Vienne, nous, on aurait dû avoir 41 mégabassines construites en 2023. Il n'y en a pas une seule de construite. On peut avoir l'impression qu'on patine, que c'est un peu dur de tenir à la lutte. Mais c'est vraiment important de souligner qu'ici, je ne sais plus ce qu'était la deadline pour 2021 ou quelque chose comme ça. Ils auraient dû avoir construit leurs 19. Bon, il n'y en a que 3 en activité. Dans le sud, les projets patinent. Dans le 37, la mobilisation fait reculer. On n'a plus de paye et que tous ces projets patinent et n'arrivent pas à se construire.
Et si on dézoome un peu de la situation des bassines, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'état général sur la question de l'eau et des sécheresses anthropiques ?
Ce qu'on appelle les sécheresses anthropiques, c'est vraiment toute la région, on va dire, est classée dans ce qu'on appelle les zones de répartition des eaux. C'est des zones qui sont en sécheresse chronique, très régulièrement, parce qu'il y a un déficit des ressources par rapport aux besoins. Bon, on pourrait discuter, est-ce que le maïs, c'est un besoin ? Et le classement, il s'est fait en 1994. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'on prend trop par rapport à ce que le milieu peut fournir. On entend beaucoup parler de réchauffement climatique, mais en fait, ça fait 30 ans qu'on est déjà en sécheresse dans nos bassins de toute la région, parce qu'on prélève trop. Ce qui est assez surprenant, c'est quand on regarde la carte de ces zones de répartition des eaux et la carte des précipitations. Sur toute la côte méditerranéenne, ils ont beaucoup moins d'eau que nous, mais ils ne sont pas en déficit hydrique. Et donc c'est là où c'est vraiment ici l'activité humaine qui est la cause des sécheresses et pas un problème météorologique. Voilà. Et ça, donc, ça fait 30 ans qu'on l'a acté administrativement et qu'on ne fait pas grand-chose. Et je dirais que les choses s'aggravent puisqu'on voit les aléas climatiques qui s'amplifient. On voit des contrastes de plus en plus importants avec des périodes de pluie massive et des périodes de sécheresse. En Charente, ça fait quelques semaines qu'il ne pleut pas. Les nappes, elles se sont cassées la gueule. Pardon, excusez mon français. Mais parce que justement, on a des hydrosystèmes qui sont devenus très vulnérables et des nappes qui vont se vider toutes seules dans les rivières, quoi, parce que les rivières ont été creusées. Une autre cause très importante de cette sécheresse anthropique dans laquelle on est.
Donc ça, c'était notre partie introductive pour avoir un peu la base sur où on en est aujourd'hui des bassines, de la situation. Et là, on va vraiment rentrer dans le cœur de notre table ronde, c'est les offensives que l'État est en train de mener sur la politique de l'eau, sur la gestion de l'eau. Et donc on va d'abord parler de la loi d'urgence agricole et de ses impacts avec Phil et Julien de Greenpeace. Qu'est-ce que cette loi d'urgence agricole prévoit ? Quels en sont les impacts et l'analyse en fait qu'on en fait ?
Phil, co-porte-parole de Bassines Non Merci 37.
Et je vais lire un texte. Moratoire sur les décisions concernant la gestion de l'eau. Mise à l'arrêt des débats dans les commissions locales de l'eau. Les offensives menées par le gouvernement Le Cornu et ses prédécesseurs visent à détricoter les textes liés à la protection de l'eau. Elles se poursuivent, s'intensifient, se précisent avec un nouveau texte mortifère, la LUA. La loi d'urgence agricole, LUA donc. Le Cornu l'avait annoncé pour le Salon de l'agriculture, reportée, elle est prévue être présentée au Conseil des ministres début avril. Sur l'eau d'abord. Limitation du débat public sur les projets de stockage. Maintien d'autorisation des volumes prélevables pendant 2 ans, même pour les projets contestés. Possibilité donnée aux préfets de se passer du cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les fameux SAGE dont vous avez dû entendre parler, et de l'avis des commissions locales de l'eau, les clés donc, pour imposer des bassines par exemple. Les organisations uniques de gestion concertée, les fameux OUGC dont on va reparler, s'imposent comme lieu de répartition des volumes prélevables et lieu de décision hors de tout cadre démocratique. Sur les zones humides, le texte prévoit que les projets agricoles ne puissent se tenir dans certaines zones humides. Pourtant, l'introduction de zones humides assurant une fonction spécifique durable, elle laisse planer le doute sur celles qui sont déjà très fragilisées et qui pourraient voir leur protection minimisée au nom de leur présumée difficulté de résilience. Déjà, les financements de l'Agence de l'eau ne sont plus fichés vers la restauration de ce qu'il est possible de sauver, et abandonne les cours d'eau sur de larges territoires. On peut se demander dans quelle mesure ces zones humides qui ne sont pas toutes répertoriées, comment est-ce qu'elles vont s'en sortir face à ce texte. Et ces inventaires d'autres zones humides, elles ont été menées dans certains départements, mais pas abouties par manque de financement. Donc il y a plein de zones humides qui n'existent pas d'un point de vue de la nomenclature. Sur les captages pour l'alimentation en eau potable, réécriture des règles de protection des captages d'eau potable par la loi. Là encore, suspension des décisions. Et on a l'exemple du SAGE dans la Vilaine, donc sur la Bretagne, en Pays Rennais, qui écrit donc. Et il s'agissait de prendre des mesures très concrètes pour quelques captages d'eau potable fragilisés par des pesticides. Ça a carrément fait péter les plombs au service de l'État. Ils sont retirés de la commission afin qu'elle ne puisse plus décider. Sur les actions de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, réécriture des modalités d'intervention, en introduisant un terme d'adaptation des règles, adaptation des contrôles, adaptation des constatations d'infraction. Nous ne faisons pas confiance à ce gouvernement pour augmenter les pouvoirs de police de l'ESB qui va devoir s'adapter donc aux règles fixées par les pollueurs et autres maltraitants.
Julien Rivoire, chargé des campagnes agriculture à Greenpeace.
Cette loi d'urgence agricole proposée par le Cornu, c'est une loi qui est écrite par le ministre de l'Agriculture Arnaud Rousseau, qui sous la commande de la présidente de la FNSEA, Annie Genevard, ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà. Bon, c'est la FNSEA et c'est sa commande qui se retrouve dans la loi. En décembre, la FNSEA dit 2027, notre objectif c'est l'eau. Ils ont une sacrée capacité à recadrer à chaque fois le débat. En 2024, la première crise agricole dont on parle, la question c'est le revenu. Donc, en tout cas, ils arrivent à recadrer le débat autour de le problème c'est les écolos, quoi, pour aller vite. Décembre, le problème c'est la DNC et le revenu. Ils arrivent à recadrer ou à déplacer le débat en disant le problème c'est l'eau et le loup, quoi. Bon. Donc il n'y a pas traité vraiment des vraies difficultés qui se posent aujourd'hui au monde agricole dans sa majorité et réussir à porter de toute façon leur agenda au service d'une minorité d'agriculteurs, en fait de l'agro-industrie, de l'agriculture industrielle et notamment des grands céréaliers. Et sur l'eau, c'est très très clair. Il y a la mise à mal de la démocratie de l'eau, je vais y revenir. Il y a quand même un aspect, parce qu'on dit beaucoup Trump et tout ça, mais il y a quand même un truc hallucinant de comment ça avance en France, comment l'État s'assoit sur les rapports scientifiques et y compris les rapports de la haute administration. Il s'essuie les pieds sur ses propres institutions. Ce n'est pas Sinon Merci ou Greenpeace ou d'autres qui disent qu'il faut préserver l'eau. Hein. C'est la Cour des comptes en 2023. La Cour des comptes, ce n'est pas les ultra-gauchistes. Hein. Donc la Cour des comptes, je cite, la réduction des prélèvements apparaît comme l'unique solution. Voilà. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan en 2024, dans le même sens, un effort de sobriété s'impose. Et le plus récent, la note du Conseil d'analyse économique de janvier 2026, c'est nécessité de réduire les prélèvements. Donc plutôt que de suivre les recommandations, y compris de ses propres administrations, on a un gouvernement qui se met vraiment au service d'une minorité, de la FNSEA, de l'intérêt particulier, pas de l'intérêt général, et qui s'assoit sur des recommandations qui sont évidentes. Sur le qualitatif, c'est pareil. On sait qu'il y a urgence à agir, qu'il faut protéger les aires de captage. Il y a plus d'une centaine de captages qui sont fermés ou abandonnés du fait de la pollution qui est devenue ingérable, trop coûteuse aussi pour plein de collectivités territoriales. On s'achemine vraiment sur des inégalités territoriales terribles entre des grosses agglos qui vont peut-être avoir les moyens d'investir sur des grosses usines de dépollution, ça ne veut pas dire que ça marchera à terme, mais... et puis des communes qui n'auront pas forcément les moyens. Et donc on va avoir une eau des riches et une eau des pauvres, ou une eau des villes, des grandes villes et une eau des communes plus rurales qui n'auront pas les moyens. Bon. Et donc la prévention, c'est... la réponse, et là encore, le rapport du Haut Commissariat au plan et à la stratégie, qui portait sur la santé environnementale, c'est 2025, c'est très récent, il dit « l'agriculture biologique est clairement une solution pour préserver efficacement la ressource en eau ». Voilà.
Amandine, est-ce que tu veux un peu compléter au nom de la Confédération Paysanne ?
Il faut imaginer que l'eau, c'est toujours en trame de fond à la FNSEA, en fait. Quelle que soit l'actualité, il la ramène sur l'eau, quoi. On voit que c'est vraiment un sujet qui est là tout le temps. Et clairement, je voudrais revenir sur les mobilisations agricoles, où jamais, jamais les bassines, même par la CR ou je ne sais qui, n'a été prononcée, quoi. Et en fait, vraiment, là, les dernières mobilisations agricoles qui ont été portées majoritairement par la coordination rurale et par la Confédération paysanne autour de la gestion sanitaire en élevage là, sur la DNC, qui est une nouvelle maladie, et sur les accords UE-Mercosur, la FNSEA n'était jamais présente, quoi. Jamais dans les manifs. Au pire, il y avait 2-3 JA qui se baladaient sans drapeau parce qu'ils avaient envie de venir parce que ça leur parlait. Mais jamais Arnaud Rousseau ne s'est prononcé. Enfin, clairement, suite à ces mobilisations... le gouvernement, il n'a pas le choix que de recevoir les syndicats agricoles. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, la CONF et la CR, on a eu chacun genre une demi-heure. La FNSEA, ils ont eu 2 heures, quoi. Et en plus, ils arrivent et ils déroulent leur liste au Père Noël parce qu'on était juste avant Noël. Et vraiment, c'est ça, quoi. Et tout en haut, il y a l'eau, il y a les bassines, quoi. La réponse, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et il y a eu aucune réponse sur la DNC. Hein, on est toujours au même niveau. Il y a sur les accords UE-Mercosur, dont vous avez suivi un peu, c'est pareil. Enfin, quelle que soit l'opportunité, quoi, ils sautent dessus. Ils n'ont jamais été dans les manifs. Mais bon, voilà, eux, ils disent, bah, nous, la réponse, c'est l'eau. Et ça marche, quoi. Donc, enfin, c'est vraiment ce truc de co-gestion qu'on dénonce depuis longtemps. Mais là, c'est le rêve pour la FNSEA, quoi.
La loi d'urgence agricole, on entend peu parler en fait dans les médias de masse. Par contre, l'année dernière, on a beaucoup entendu parler de la fameuse loi du plomb. Et donc, Benoît, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette loi du plomb et ses impacts aujourd'hui ?
Benoît Biteau, paysan, agronome, député écologiste de Charente-Maritime.
Je voulais juste revenir sur ton introduction parce que effectivement, moi, j'étais là il y a 3 ans et je me reconnais dans les gens qui ont beaucoup d'émotions à revenir à Mel, à parler de Sainte-Soline, parce qu'on y a vécu des choses terribles et traumatisantes, j'ai pas honte de le dire. Et effectivement, il faut peut-être parfois accepter de se faire accompagner parce que c'était extrêmement traumatisant. Mais voilà, j'ai une pensée pour ceux qui sont venus courageusement ce jour-là. Et j'ai une pensée aussi pour ceux qui en ont subi les frais. Je pense aux victimes. Et donc, voilà, c'était juste une introduction et merci de m'avoir invité. J'ai écrit mon premier texte où j'ai lancé l'alerte sur les méga-bassines en 99. Julien serait là, il pourrait témoigner. Et c'est marrant parce qu'Amandine, tu devais pas être très vieille en 99. Et heureusement qu'on voit apparaître dans le combat des jeunes comme toi qui reprennent le flambeau. Moi, je commence à avoir des poils blancs dans la moustache et c'est bien de croiser des gens comme toi dans les combats. Il y en a plein d'autres. Alors, sur la loi du plomb et sur la loi d'urgence agricole. Moi, j'ai l'habitude d'aborder la loi du plomb avec la description d'une forme de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on a un monde agricole qui vient en soutien de cette loi d'urgence agricole, qui vient en soutien de cette loi du plomb, sans comprendre que la grande, très très grande majorité des agriculteurs vont en vérité en être les premières victimes. Quand on décrypte la loi du plomb, on se rend compte qu'elle veut libérer la possibilité de faire des bassines ou d'avoir accès à l'eau. Qui est concerné par l'accès à l'eau en agriculture ? 6% des agriculteurs. Quand j'entends un président de la République, un premier ministre, une ministre de l'agriculture nous dire « il n'y a pas d'agriculture sans irrigation », c'est au moins méprisant, voire insultant, pour tous ces agriculteurs qui tentent de tenir la souveraineté alimentaire dont elle parle sans avoir un échantillon sur elle, parce qu'elle n'a toujours pas compris ce qu'était la souveraineté alimentaire, mais c'est normal. Pour comprendre la souveraineté alimentaire, il faudrait qu'elle passe un peu plus de temps avec les représentants en France de la Via Campesina qui ont posé cette définition de la souveraineté alimentaire. J'entends par là la Confédération Paysanne. Pour comprendre ce qu'est la souveraineté alimentaire, ça, c'est pas faire. Mais en vérité, la souveraineté alimentaire ne repose pas sur ces 6% d'agriculteurs qui auront accès à l'eau. Donc c'est méprisant pour les 94% qui, d'ailleurs, par rapport aux logiques de gestion de l'eau que propose la loi d'urgence agricole, que proposait Laurent Duplomb, vont être les victimes d'une confiscation, d'un accaparement de l'eau par cette minorité, puisqu'on a parlé d'affaissement de nappe, on a parlé d'ASEC, de sécheresse anthropique. Eh bien, les 94% d'agriculteurs dont je parle sont aussi victimes de ces sécheresses anthropiques. La loi du plomb, c'est le retour de l'acétamipride. C'est 4,2% des surfaces agricoles qui pourraient être concernées par des traitements à l'acétamipride. Donc on voit encore que là, on s'adresse avec ce sujet de l'acétamipride à une frange d'agriculteurs qui est loin de représenter la majorité des agriculteurs. L'autre axe fort de la loi du plomb, c'était l'élevage. Et favoriser le développement d'élevage industriel que les mêmes dénoncent quand ils sont au Mercosur, quand ils sont en Ukraine, mais qu'on voudrait ramener en France comme si c'était un modèle à reproduire alors qu'ils sont les premiers à les dénoncer. On se demande à quel moment ils sont sincères, au moment où ils dénoncent ces élevages ou au moment où ils demandent à ce que ces élevages soient généralisés un peu partout. Moi, j'ai ma petite idée, je vous laisse réfléchir, mais en vérité, qui est concerné par les dérogations aux installations classées pour la protection de l'environnement, 3% des éleveurs. Donc on a bien compris que la loi du plomb s'adresse à cette frange d'agriculteurs nantis qui font partie des 20%, qui captent 80% des aides et qui assèchent une enveloppe publique qui fait que les 80% d'agriculteurs qui restent doivent se contenter des 20% de miettes que leur ont laissé les gros. Le 9 décembre 2025, on recevait Annie Genevard à la Commission des affaires économiques. Et c'était le jour anniversaire du 9 décembre 1905, qui est le jour où la loi sur la laïcité a séparé le pouvoir entre l'État et l'Église. Et donc j'ai conclu mon propos en lui demandant si, pour les 120 ans de la loi sur la laïcité, on pouvait espérer ce 9 décembre-là séparer l'État de la FNSEA. Ça ne l'a pas fait rire du tout, mais n'empêche que c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que c'est 6% d'irrigants, c'est 4,2% qui peuvent bénéficier de l'acétamipride, c'est 3% d'éleveurs qui veulent échapper aux ICPE, sont probablement dans les 20 qui touchent les 80% de la PAC, et sont probablement aussi
ceux qui pilotent la FNSEA. Ne nous trompons pas, et c'est pour ça que je vous parle dès le début d'un syndrome de Stockholm. Quand je vois tous les agriculteurs voler en escadrille, en soutien de la loi du plomb, en soutien des délires de Genevard, ils sont dans un véritable syndrome de Stockholm. Ils volent en escadrille pour défendre leurs bourreaux. Parce que qui a intérêt à tout ça? À part Bayer, à part Limagrain, à part Yara, à part en aval, Nestlé, Danone, Lactalis, tous ceux-là ont intérêt à continuer d'avancer avec la loi du plomb. Mais nous, les citoyens, nous, les agriculteurs qui prenons un autre chemin que celui porté par la FNSEA, on a tout à y perdre. Sauf qu'on fait ça avec des politiques publiques, on fait ça avec de l'argent public, dans un débat où on a eu une pétition signée par plus de 2 millions de citoyens. Alors quand on nous dit 2 millions sur 60 millions, c'est pas beaucoup. Mais 2 millions face à 400 000 agriculteurs, ça commence à peser. Ça nous renvoie un message extrêmement clair. Que quand on parle d'agriculture, on parle de l'alimentation de tout le monde. On parle de l'eau qu'on met tous les jours dans nos verres. On parle de l'air qu'on respire à chaque instant. On parle de la santé de tous. On parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent public. Et c'est l'angle mort de tous ces débats autour de l'agriculture. C'est pas la FNSEA qui va vous parler des enveloppes publiques. En revanche, les citoyens remettent le doigt sur ce sujet. Et c'est ce qui s'est passé pour les méga-bassines. Pourquoi est-ce qu'on était 30 000 à Sainte-Soline? C'est parce que quand on a gagné tous les recours en justice, que tous les scientifiques nous disent que c'est de la maladaptation, qu'il ne nous reste plus qu'une solution pour dénoncer tout ça, qui est le droit constitutionnel, à manifester et qu'on déclare la manifestation interdite, eh bien en vérité, nous les citoyens, on n'a pourtant plus que ça à dire pour dire on ne veut pas que l'argent public aille sur ce terrain-là. D'ailleurs, moi j'ai une petite analyse. Beaucoup d'élus m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, élu, à la manif de Sainte-Soline, à porter une écharpe distinctive, alors que tu devrais respecter l'état de droit ?» Mais qui piétine l'état de droit quand on donne des autorisations d'aménager, des autorisations environnementales sur des projets qui ont été déboutés par la justice, qui sont dénoncés par la classe scientifique et que les citoyens ne veulent pas qu'on finance avec l'argent public? Est-ce que c'est nous, les élus, qui étions avec les manifestants malgré la manifestation interdite? Ou est-ce que c'est ceux qui n'y étaient pas? Parce que moi, je vais jusque-là. Je dis que quand on est respectueux de l'état de droit, a fortiori quand on est élu, ceux qui étaient en faute le jour de Sainte-Soline, c'est ceux qui n'étaient pas élus à côté des citoyens manifestants à Sainte-Soline. Moi, je vais jusque-là. Pour finir sur ma démonstration avec la pétition, il faut absolument replacer ce sujet dans un véritable débat de société. Il faut le sortir d'un débat confiné qui est capté dans la sphère consanguine de la FNSEA et remettre la démocratie basée sur la science au cœur des débats. Parce que quand on parle du sage-vilaine et qu'on nous dit on veut empêcher, et c'est dans la loi d'urgence agricole, les débats qui peuvent sortir des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales de l'eau, c'est proprement scandaleux. On piétine et la science et la démocratie. Quand on refuse et qu'on oppose à des études HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, qui projette l'usage de l'eau en intégrant le changement climatique à 2050. On piétine la science. Et on voudrait opposer à ça des études socio-économiques. Mais à quoi jouons-nous? Et donc, moi je conclue par une phrase, parce que j'aime bien Clémenceau. Clémenceau disait que la guerre était un sujet bien trop sérieux pour le confier aux militaires. Eh bien moi je vous dis aujourd'hui que notre agriculture, notre alimentation, est un sujet bien trop sérieux pour le confier au seul monde agricole et à une Annie Genevard qui est le perroquet, le ventriloque d'Arnaud Rousseau.
Grâce au glyphosate, on a tous une grosse prostate. Grâce aux fongicides, on n'a plus de thyroïde. Haute valeur environnementale et tumeurs colorectales. Merci Bayer Monsanto, on a tous droit à la chimio. Grâce au chlordéco, on se fait changer les poumons. Merci Bayer Monsanto, on est malade et le berceau, c'est dans la terre. placés dans l'eau. Bayer, on t'a tous dans la peau. Tu nous débarrasses des oiseaux qui font caca sur nos chapeaux.
Le glyphosate par Nos Confitures, extrait du disque L'eau qui mord. Avant de retrouver cette table ronde sur la politique de l'eau organisée par Bassine Non Merci, c'était le 28 mars 2026 à Mel, pas très loin de Sainte-Soline.
Si on va sur tous ces grands projets qui mettent en danger nos terres, la gestion de l'eau et l'eau potable pour tout le monde, est-ce qu'Amandine, tu pourrais nous parler un peu de cette volonté de développer les stockages via le fonds hydraulique ?
Amandine Paco, de la Confédération Paysanne.
Juste que le fonds hydraulique, du coup, bah, c'est encore un moyen de financer les méga-bassines, entre autres, hein, parce que le fonds hydraulique, il ne va pas financer que ça, il finance en partie des réparations de conduites, des grands ouvrages qui sont un peu vieillissants dans le sud, notamment là sur le canal du Midi, des choses comme ça, mais quand même, il va financer aussi des méga-bassines. Enfin, ça, c'est ce que nous, on essaye de comprendre, parce que là-dessus, on est comme vous, en fait, il n'y a aucune information. Hein. C'est de l'argent public, on ne sait pas à qui elle va, et puis on ne sait pas combien il y a d'argent en face. Donc, il y a vraiment très, très peu d'infos là-dessus. Mais ils ont décidé donc de faire x3, donc là encore, suite aux demandes de la FNSEA. J'étais invitée en tant que représentante syndicale de la CONF avec notre porte-parole Benoît Jeunet à la préfecture. C'était une réunion dont on a été averti la veille. Le fonds hydraulique, ils ont demandé au préfet de faire un inventaire, un peu, enfin, de faire remonter les projets qui posaient problème. Nos méga-bassines en Deux-Sèvres posaient problème. Et après, il y a eu donc une sélection, donc il y a eu des lauréats, c'est vraiment comme ça qu'ils appellent. Donc le ministère de l'Agriculture essaye de rencontrer les acteurs sur les zones où il y a des problèmes pour bien comprendre tous les enjeux et puis voir combien d'argent ils vont mettre en face. Donc mercredi, on était à la préfecture de Niort avec tous les pro-bassines possibles et inimaginables. Donc la FNSEA plus, parce qu'il y avait les représentants des chambres d'agriculture de Sèvres et Charente-Maritime, vu que le projet est sur les deux départements. Le président de la chambre régionale, il y avait les présidents des irrigants, que du beau monde, hein. Que des hommes plutôt âgés d'ailleurs. Je suis la seule femme à avoir pris la parole. On était, je pense, à peu près 30 en tout. Il y avait aussi la coordination rurale qui n'a pas du tout parlé. On peut se poser question de quelle représentation ils font dans ces instances. Et donc du coup, cette réunion, c'était vraiment avec le ministère de l'Agriculture pour comprendre voilà, ce qui se passait en Deux-Sèvres. Donc c'était assez long parce qu'en fait, ils ont tous pris la parole pour dire que les bassines, c'est génial. Par contre, bah, ils avaient absolument besoin d'argent supplémentaire, quoi. Et ça, c'était assez intéressant quand même parce qu'on voit que leur modèle économique, vraiment, là, il tient plus du tout la route, quoi. Ça fait un moment qu'ils vendent un service, bah, en gros, des méga-bassines. Et les agriculteurs qui y ont cru et qui y croient encore n'ont pas ce service pour la plupart. Donc, en fait, la COP de l'eau, elle avait misé tout son modèle économique sur bah, faire payer plus cher à ces gens qui seront raccordés. Mais là, du coup, en fait, elle peut pas, quoi, parce que vu qu'il n'y a pas le service en face, les gens, ils veulent pas payer, quoi. Donc, il y a des vrais problèmes de modèle économique. Il y a aussi le coût de la sécurisation qui a augmenté. Il y a le coût de l'énergie. Enfin, bon, voilà, en gros, ça marche pas. Et en plus, au sein de la COP de l'eau, les irrigants, il y a des gens qui commencent à partir parce qu'ils sont vieux aussi. Ils sont même plus, en fait, agriculteurs. Enfin, bon, bref, donc c'est le bazar. Donc là, ils ont vraiment besoin d'argent. Donc ils ont demandé donc ce truc-là, le fonds hydraulique. On n'a pas eu de réponse sur la somme qui va être attribuée, mais bon, c'est des grosses sommes. À la CONF, on a dit que c'était inadmissible d'avoir des fonds publics et qu'en face, on n'ait aucune information. Le directeur de cabinet m'a juste répondu « Mais madame, il faut juste nous demander et on vous dira. » Donc peut-être que vous pouvez aussi le faire. Mais enfin voilà, non, c'est des blagues, quoi. Le fonds hydraulique, c'est qu'il y aura maximum 10% de cette somme-là par projet qui pourra servir pour la sécurité des ouvrages. De l'argent public pour payer des caméras autour des méga-bassines. Donc ils ont aussi demandé encore de l'argent parce que, vous savez, il y a 11 fermes qui doivent être accordées à Sainte-Soline. Et en fait, ça fait 2 ans qu'ils ne peuvent pas utiliser la méga-bassine. Et donc en fait, ces personnes, elles se sont engagées à condamner leur forage dans lesquels elles prélevaient. Et donc en fait, ça fait 2 ans que ces personnes se retrouvent sans aucun volume. plutôt que de les accompagner, à leur dire bon bah on va essayer de changer un peu les pratiques ou enfin bref, bah non, ils demandent de l'argent pour les pertes de ces 11 agriculteurs qui s'élèvent à 400 000 euros, qui ont été chiffrés par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et par les services de l'État des Deux-Sèvres, la préfecture. Donc encore des gens payés par l'argent public qui ont travaillé pour s'y raccorder aux mégabassines. On est à peu près là sur déjà 250 000 euros de subventions par ferme. Donc ça, c'est les gens qui seront raccordés au projet des mégabassines. Vous rajoutez un petit peu de fonds hydrauliques, vous rajoutez un petit peu de pertes, dommages et intérêts. Tout va bien, quoi. C'est vraiment, en fait, de l'argent, on en a plein, quoi. C'est juste que c'est pour les mégabassines. Le directeur de cabinet, là, il dit « Oui, mais en fait, vous pourriez toucher encore plus d'argent si le projet était porté par une collectivité. » Et donc là, monsieur le préfet, il a dit « Bah oui, parce que c'était assez bizarre, c'est qu'on avait l'impression que le ministère de l'Agriculture ne connaissait rien au dossier des mégabassines en Deux-Sèvres. » Alors je sais pas si c'était du bluff ou... Et donc le préfet dit « Bah oui, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a prévu. » Donc le préfet a annoncé officiellement que dans quelques semaines, le département des Deux-Sèvres allait voter la récupération du dossier des bassines. En gros, ça sera plus la COP de l'eau qui portera les mégabassines, mais bien le département des Deux-Sèvres, si c'est voté. C'est honteux, quoi. Il n'y a plus d'argent pour les gamins de l'ASE, mais par contre, il va y avoir de l'argent pour même pas 100 agriculteurs. C'est complètement injuste, tout cet argent public qui part dans ces projets.
Juste sur le fonds hydraulique, ils partent d'un postulat où ils considèrent que, à l'instar de ce qui s'est passé sur les mégabassines qui ont émergé suite au protocole de décembre 2018, les agences de l'eau vont continuer d'alimenter le financement. Sauf que la conditionnalité qu'ont posée les agences de l'eau fait qu'aujourd'hui, des mégabassines telles qu'elles ont été imaginées dans la configuration du protocole 2018 ne sont plus éligibles au fonds agences de l'eau. C'est-à-dire que le ton est en train quand même de durcir au sein des agences de l'eau parce que les taux se resserrent. C'est-à-dire qu'il faut retirer les pesticides de l'eau potable, il faut retirer les nitrates de l'eau potable, il faut changer les canalisations en plomb, il faut changer les canalisations en PVC, il faut changer les canalisations qui fuient. Et donc, il y a d'autres urgences que de financer les mégabassines. Et donc, ce postulat de départ qui consistera à penser qu'on peut mettre un fonds hydraulique pour compléter le financement des agences de l'eau parce qu'ils ne sont pas éligibles aux fonds européens, parce que pour avoir des fonds européens, il faut réduire les prélèvements de 15%. C'est la condition. Si vous ne réduisez pas les prélèvements sur la période de 365 jours de 15%, vous n'êtes pas éligible aux fonds européens. Donc, ce fonds hydraulique national visait à faire tout ça, mais il est incapable de financer le désengagement des agences de l'eau. Donc on va buter sur un problème de financement. Le département de Charente-Maritime a créé un syndicat mixte pour une gestion publique de l'eau. Sauf que, regardez la gouvernance du syndicat mixte, il n'y a que les agriculteurs. En Charente-Maritime, on a une zone littorale, donc on a des activités primaires en mer, comme l'ostréiculture de Marais-Oléron par exemple. On avait demandé à ce que ce syndicat mixte, donc qui fait office d'établissement public, contienne dans sa gouvernance une pluralité, une diversité, y compris syndicale. Et aujourd'hui, c'est un syndicat mixte financé par le département où seul s'exprime, en gros, je le caricature un peu, mais à peine, s'exprime la FNSEA. Donc c'est des faux établissements publics, c'est des fausses gestions publiques de l'eau.
Justement, on parle de gouvernance, de gestion. Phil, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en lien avec les organismes de gestion concertée, s'il te plaît ?
Merci, carrément la suite du sujet, là. Qui piloterait la gestion de l'eau à partir d'aujourd'hui. Effectivement, un syndicat mixte qui est en fait qu'à la solde du monde agricole, voilà, le régime sec, enfin pas pour tout le monde, imposé par le Cornu, c'est des modalités, c'est des outils qui vont se mettre en place. Et tout à l'heure, j'ai prononcé encore un acronyme débile et puis incompréhensible, OUGC, Organisme Unique de Gestion Concertée. Il y a un mois et demi de ça, en commission locale de l'eau, là, sur la Vienne Tourangelle, donc c'est la partie de la Vienne qui est sur le département de l'Indre-et-Loire. À côté de moi, il y a la représentante de la sous-préfète. Et pas très loin là-bas, le président des irrigants d'Indre-et-Loire. Et on apprend par la représentante de la préfecture qu'il y a dans les tuyaux, là, dans les cartons, des discussions avec le département pour fabriquer un truc qui va permettre de sortir de la crise hydraulique. Donc en fait, c'est quoi ce truc, quoi ? Organisme unique de gestion concertée, concertée, rien du tout, quoi. Collectif de quoi ? Pareil, quoi. C'est pas du tout collectif, quoi. Bon, on est à l'alerte. On va reparler tout à l'heure de comment on peut avancer et contrecarrer ces projets-là.
La politique de l'eau, la gestion de l'eau, c'est compliqué. Et quand on n'est pas dedans, quand on est citoyen lambda qui travaille dans d'autres domaines, comprendre ce qui se passe, c'est super compliqué. Pourtant, on a un impact direct en tant que citoyen, en tant que riverain, l'impact des maladies, des cancers. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on accueille Cancer Colère, donc je les remercie, le collectif, parce que je sais que vous êtes plusieurs à être venus. Et donc, Caroline, est-ce que tu peux nous présenter Cancer Colère et justement nous parler de toute cette volonté de réintroduire les pesticides, les produits phytosanitaires, comme ils disent ?
Caroline Proust, du collectif Cancer Colère.
Merci beaucoup. Je vais dire un petit mot de présentation parce que c'est un collectif qui est tout jeune, à peine un an. Collectif de malades, d'ex-malades et de futurs malades. Désolée de vous l'annoncer, ça concerne tout le monde. Donc c'est un collectif qui est né avec la loi du plomb, puisque la fondatrice de Cancer Colère était en chimio quand le Sénat s'est dit « Tiens, et si on faisait un vote pour essayer d'empoisonner les gens ?» Personnellement, j'étais un peu dans la même synchronicité. On m'a donc diagnostiqué un cancer du pancréas en janvier 2025. Et donc à ce moment-là, il y a la loi du plomb. Donc, je rentre en chimio, comme d'autres. On est derrière nos écrans de télé, derrière les journaux, en train de se dire. Donc en fait, il y a des gars là, ils sont tous en train de se dire, on est hyper fiers de nous, parce qu'on est en train de voter une loi pour empoisonner les gens. Quand ça colère, on est là pour montrer des visages sur les conséquences de toutes ces conneries. Parce qu'on parle de pollution, on parle des conséquences de tout ça, mais en fait, il est naturel et normal qu'on ne visualise pas bien qu'en fait, en bout de chaîne, c'est des gens qui meurent, c'est des cancers pédiatriques et c'est des cancers. Et que les cancers, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, on n'en guérit pas. Et non, le technosolutionnisme, ce n'est pas la fin du truc, quoi. Parce qu'on l'entend aussi, hein. Vous inquiétez pas, il y a l'IA qui va vous soigner. Non, en fait, ce n'est pas le sujet. Et puis, quand on a la chance de ne pas succomber rapidement du cancer, on peut vous l'attester. Les effets secondaires et vivre avec ça, non, on ne guérit pas. Voilà. La loi du plomb. Tout à l'heure, Benoît, enfin, j'avais envie de rebondir parce que tu parlais de syndrome de Stockholm. Et en fait, c'est exactement ça. Parce que vous n'avez pas idée du nombre de courriers qu'on peut recevoir d'agriculteurs qui nous écrivent et qui nous disent bah voilà, moi j'ai. 80 balais ou plus, quand j'ai commencé l'agriculture, bah, j'ai fait comme on m'a dit de faire, il n'y avait pas d'autre solution, donc bah, on a tous fait la même chose. Et j'ai vu des gens tomber autour de moi, mes voisins, ma famille, ma femme, mes enfants, mes cousins. Moi je suis encore là avec un cancer ou pas de cancer, et je me dis, bah merde, je les ai tués quoi. Et c'est une culpabilité à porter qui n'a pas de nom. C'est complètement incroyable de se dire, il y a des gens là qui portent ce truc-là. Et après il y a des gens qui simplement voient leurs enfants... tomber malade et certains en meurent, on en connaît pas mal. Et donc bah, y a nous qui sommes encore sur pied et en fait on est arrivé à ce moment-là de la lutte où les scientifiques alertent, où les médecins alertent, où les agriculteurs alertent, personne n'entend. Donc maintenant c'est les malades, on est obligé de venir dire on est là et voilà ce que vous êtes en train de faire. Le 11 février dernier, nous étions donc avec les camarades contre la loi du plomb, il y a eu cette pétition. 2 100 000. Suite à cette pétition, on avait le droit à un débat à l'Assemblée. Il me semble, arrête-moi si je me trompe, mais que c'est Yael Braun-Pivet qui a dit d'accord, mais pas de vote. C'est elle qui a décidé qu'il n'y aurait pas de vote.
C'est Macron qui a dit qu'il n'y aura pas de vote et elle a relayé.
Donc voilà. Donc un débat, bon, en gros, pour nous faire plaisir. Nous avons en amont fait des mobilisations. Le week-end du 7-8 dans toute la France et le 11. À Invalides, on était, me semble-t-il, 1500. On a fait du bruit, on a eu beaucoup de prises de parole très intéressantes qui représentaient voilà, les scientifiques, les agriculteurs, les malades, et les parents de malades, les écologues, enfin bon, il y avait de tout. Et après, on s'est retrouvés à l'Assemblée nationale, 3 heures à entendre des horreurs. Et en fait, quand nous, on est là, on est malades, on est avec des mamans d'enfants malades. Et ce qu'on a entendu, en fait, Sandra Marceau, moi, elle m'a fait pleurer, hein, clairement, c'était la pire. Qui nous insultent, en fait, parce que nous, on arrive, et en fait, ce qu'on entend, c'est que nous sommes des hystériques. En fait, on est là pour faire peur aux gens. Toute une liste d'insultes. Après, on a entendu Annie Genevard qui a fait un truc assez dingue. On n'a pas trop relayé, parce qu'on a parlé des robots qui auraient signé la pétition, tout ça. Mais il y a eu une scène assez marrante. C'est qu'il y a l'ERN qui, lui, disait à Annie Genevard qu'elle n'en faisait pas assez. Et elle est en train de ramper devant l'ERN. Et elle va dire, mais si, mais moi, mais vous n'avez pas vu, j'arrête pas de faire plein de trucs pour vous, mais j'y arrive pas à cause des écolos. Voilà, Annie Genevard qui rampait devant le RN. On a entendu, donc pendant 3 heures, donc nous, les malades, on est des hystériques et on est là pour faire peur. Et donc le sujet, c'était simplement faire plaisir au RN. Enfin, c'était complètement fou. On est ressorti de là, enfin vraiment pas bien. Moi, j'ai dit, j'y retournerai pas. voilà, c'était une expérience intéressante, mais d'une violence inouïe. Pour revenir à cette histoire de syndrome de Stockholm, c'est que donc nous, on est malades, mais en fait, les agriculteurs sont aussi les premiers concernés par rapport à la science, parce qu'en fait, nous, à Cancer Colère, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des juristes, on n'est pas ça, mais évidemment, on lit énormément et on s'informe et on ne dit rien qui n'est pas sourcé. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand, dès qu'on commence à aller farfouiller, on voit le consensus scientifique. Et en fait, on passe notre temps à se justifier sur des trucs qui sont en fait avérés depuis des dizaines d'années, sur la dangerosité des phytos, des pesticides, enfin, sur les violences chimiques en général. Et en fait, on est quand même soutenu par un nombre de scientifiques dingues. Par exemple, l'Ordre des médecins qui nous soutient, on n'est quand même pas sur une bande d'éco-terroristes de gauche, quoi. Et ils nous soutiennent. En fait, ce qui est complètement fou, c'est que la science est avec nous. Et en fait, elle est tellement avec nous que là, le discours, là, c'est de dire que la science n'existe pas. En fait, ils s'en prennent à la science parce que la science est avec nous. On nous dit, donc, si on est malade, c'est à cause des comportements individuels et ça n'a rien à voir, bien entendu, avec l'environnement. Mais ça va plus loin. En fait, j'avais envie de dire deux mots sur Omnibus. Le principe d'Omnibus, un dispositif législatif européen pour dire on va corriger un paquet de lois, en fait, si on a un truc à changer et que ça concerne pas mal de sujets différents. Et là, Ursula von der Leyen, elle s'est dit, chouette, c'est un super truc pour essayer de trumpiser l'Europe. Donc il y a... pour l'instant, 10 gros paquets de lois. Le Omnibus 10 qui concerne la sécurité alimentaire, donc on en parle, mais en fait, Omnibus, ça concerne absolument tout. Ça concerne, oui, l'agriculture, mais ça concerne aussi les cosmétiques, ça concerne les entreprises en général. Et en fait, c'est un outil pour simplifier. Donc, c'est ce que ça veut dire, c'est de la dérégulation. C'est pas que les pesticides, parce que par rapport aux pesticides, par exemple, c'est de dire, là, en fait, on va autoriser les pesticides à vie. Ce qu'ils disent, c'est là, actuellement, il y a vaguement un contrôle. À chaque fois qu'une molécule est autorisée, on est censé revérifier que ce n'est pas toxique parce que la science avance. En fait, on considère que la science est censée nous aider, qu'elle progresse et que donc elle vérifie que les molécules sont dangereuses ou pas. Et là, ce qu'on nous dit, c'est « Ah bah ouais, mais c'est que ça prend trop de temps. En fait, il y a un embouteillage législatif parce qu'il y a trop de trucs à vérifier. Alors pourquoi il y a un embouteillage? Le truc, il est aussi organisé, on pourrait rentrer dans les détails, mais bon, bref. Et pour solutionner ça, en fait, c'est le malade qui casse le thermomètre, quoi. C'est, en fait, on va arrêter de vérifier. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est, les pesticides, maintenant, toutes les molécules qui arrivent, on va les autoriser à vie. Et c'est de dire, en fait, ce que dit la science, on s'en fout, c'est de dire, la science ne compte pas. Ce qui compte, c'est les intérêts économiques qui sont derrière. Omnibus, là, on parle des pesticides, mais derrière, c'est aussi, ça concerne les droits humains en général. Parce qu'en fait, ce que ça dit aussi, c'est toutes les multinationales qui sont censées, grâce à certaines lois européennes, dire que l'esclavage, c'est pas bien. là, en fait, il n'y a plus d'obligation de contrôler non seulement les entreprises qui ne respectent pas les droits humains, mais leurs filiales et toute la chaîne de production. C'est de dire, non, vous n'avez plus d'obligation de contrôle. Donc ça concerne absolument tout. Et en fait, même... la manière d'écrire Omnibus n'est pas démocratique. C'est qu'il contourne énormément de procédures. Il y a certaines concertations qui se font en 24 heures le week-end, en dehors de toute procédure démocratique. Enfin, c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer avec Omnibus. Et en fait, c'est que c'est représentatif d'énormément de choses et que, une fois qu'après c'est posé, c'est censé s'appliquer évidemment à tous les pays. Donc en fait, à tout ce qui se passe de la LUA et compagnie, c'est abominable, mais c'est dans un contexte pire. voilà. Par contre, je vous promets, après on part vers l'optimisme et tout, à la fin on va expliquer comment essayer de sortir tout ça. Je vous promets, à la fin, normalement, on parle de comment on va s'en sortir.
Une mini-intervention de Benoît.
Annie Genevard, elle a un problème avec une autre disposition républicaine et démocratique, c'est le principe de précaution. Ces gens-là, avec un cynisme sans bornes, nous disent « Ne vous inquiétez pas pour vos cancers, demain, on va savoir les guérir. » Alors qu'il y a une autre technique qui consiste à dire « On a évalué la dangerosité de tout ça, même si l'Omnibus 10 est en train de dire « On ne va pas revenir sur les évaluations parce que tous les 10 ans, c'est un peu pénible. » Il y a un faisceau de preuves qui montre
qu'il y a un lien entre les cancers et un certain nombre de maladies. C'est la raison pour laquelle il y a des reconnaissances de maladies professionnelles. Il y a aussi l'aspect humain à traiter. Moi, je suis sur une circonscription où on a 6 fois plus de cancers pédiatriques que partout ailleurs en France. Moi, je rencontre des familles qui sont venues vivre à la campagne pour protéger leurs enfants et qui les emmènent en chimiothérapie. Je vous invite à réfléchir à ça et j'ai invité Mme Genevard à échanger droit dans les yeux avec ses parents, qui étaient là d'ailleurs 1 heure avant le vote de la loi Duplomb et notamment le témoignage extrêmement émouvant, bien sûr, de Fleur Brotteau, mais aussi de Laure Marivin qui a perdu Amy, sa fille, à cause des pesticides auxquels elle a été en contact en tant que fleuriste. On a ce principe de précaution qui devrait s'appliquer. Et il devrait d'autant plus s'appliquer qu'aujourd'hui, on a la preuve qu'une autre agriculture tient, qu'une autre agriculture peut tenir la souveraineté alimentaire. Et ce qu'elle n'a pas compris non plus, et je finis là-dessus, c'est que ce qui menace la souveraineté alimentaire, ce n'est pas la disparition de l'acétamipride ou d'un engrais de synthèse, qu'on a du mal à sortir de l'eau d'ailleurs ensuite, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique. Et là aussi, les pesticides sont coupables. Et donc, ce principe de précaution devrait interpeller Mme Genevard pour dire faut arrêter les conneries maintenant, mais ça, c'est quelque chose qu'elle n'entend pas. C'était le sens de mon propos dans le débat sur la loi Duplomb sans vote, après avoir voté la loi Duplomb sans débat.
Toute petite seconde sur le principe de précaution. Il est attaqué directement avec une volonté de sortir le principe de précaution de nos textes. C'est le sujet du congrès de la FNSEA qui se tient ce week-end à Caen. Voilà.
C'est dans la terre et c'est dans l'eau. Bayer, on t'a tous dans la peau. Tu nous débarrasses des abeilles qui font peur à ma tante Mireille. Ah, 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 la queue de nœud. Tous les cancéreux traînent la savate.
Greenpeace a beaucoup travaillé sur l'analyse de la loi d'urgence agricole, donc Julien, je vais te donner la parole pour conclure sur cette deuxième partie.
Et avant de revenir sur la LUA, je pense que ce que Caro t'a évoqué, puis que là on débat autour du technosolutionnisme, de toute façon ça va être un axe central de l'offensive, ou en tout cas ça va structurer à mon avis les débats. Au-delà d'ailleurs des questions agricoles, etc., c'est la même chose sur le climat. Hein. On voit une offensive, ou en tout cas le débat il se restructure autour de ceux qui disent « en fait, on continue comme avant, mais vous inquiétez pas, on a des solutions ». Il y a des milliards qui sont aujourd'hui investis dans le captage carbone, par exemple. On n'a aucune solution technique, mais on investit des milliards. Ça va être ça la solution. Et pareil sur la dépollution de l'eau, le gros discours qui avance et qu'il faut qu'on déconstruise, c'est... On continue comme avant, mais on va trouver des techniques pour et des usines plus qui coûtent hyper cher. Ça pose des problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, d'inégalité. Voilà. Puis effectivement, oui, la FNSEA qui avance sur le principe de précaution et donc qui s'attaque à toute idée de prévention, c'est central. Et donc ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Sur la LUA, et peut-être pour faire aussi commencer à la transition sur le positif, peut-être une analyse, c'est de se dire que cette loi d'urgence agricole, c'est... aussi le dernier râle d'une bête blessée. Et la bête blessée, c'est la FNSEA. Parce que quand même, ça a pris des coups. Elle se retrouve, en tout cas à certains endroits, complètement isolée. On l'a vu sur la loi Duplomb, où on pourra y revenir. Malgré tout, il y a une victoire dans la bataille des idées. Ils sont retrouvés isolés. Sur la question de l'eau, il y avait tout un débat autour du groupe national captage, qui est une institution qui devait avancer pour construire un arrêté afin de définir quels étaient les critères pour avoir des aires de captage, on nomme sensibles et sur lesquelles il fallait agir. Bon. La FNSEA a bloqué 1 an de travaux en décembre dernier. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient seuls contre le monde entier. Le Sage-Vilaine, c'est 3 ans de négociations. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça arrivait sur un nouveau schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Il y avait une avancée sur l'interdiction d'un herbicide maïs sur une partie des aires de captage. Pas révolutionnaire. Mais c'était porté et discuté, y compris par la Chambre d'agriculture du 35, qui était OK avec ça. Les copains et copines de la conf paysanne du coin disaient « on bossait bien ensemble, on avançait, etc. » 3 ans avec un travail honnêtement dans une clé presque parfaite. Transparence des débats, consultation du public, les élus qui étaient OK avec ça et qui poussaient, etc. Bon bref, ça commence à se tendre à partir de mai dernier. pour la loi du plan. Bon. Et j'ai aucune preuve de ce que je vais avancer là, mais on partage cette analyse avec les copains et copines de la conf du coin de 35 et aux Rivières de Bretagne qui a fait un gros boulot là-dessus. C'est que la FNSEA nationale a dit à la FNSEA 35 et aux autres, vous arrêtez vos conneries. Parce que là, à commencer à interdire un herbicide, c'est un précédent. Et on n'en veut pas de ce précédent-là. Et donc, ils ont mis en place la même stratégie qu'ils ont mis en place au Clin ou à la Boutonne, etc., sur les questions quantitatives, la même stratégie. On commence à dénigrer les conclusions scientifiques, à bloquer, y compris physiquement. On demande des études complémentaires. Et puis, on fait appel au pouvoir de l'État et à la co-gestion, y compris jusqu'à Macron. Rencontre dans un couloir, le 13 décembre, qui est documenté, entre le président de la FDSEA 35 et Macron. Ça dure 10 minutes. On a le moratoire qui suit, annoncé par le Cornu, qui est en partie une réponse à cette situation-là. On a là la FNSEA qui se retrouve dans certaines situations qui est isolée, y compris avec des élus locaux, y compris de droite, etc. Qui est isolée parce qu'il y a une réalité autour de la question de l'eau. Le 8 avril prochain, c'est au Conseil des ministres, théoriquement, cette loi sera présentée. Pour l'instant, ce dont on parle, nous, c'est une fuite via la presse, de une loi qui a été envoyée au Conseil d'État. Donc peut-être que ça va bouger. Le 8 avril, c'est ça, mais a priori à l'Assemblée nationale, c'est la volonté du gouvernement d'avancer très vite, juin au Sénat, et en juillet, commission mixte paritaire. Donc il va falloir construire les mobilisations assez vite et être déterminé pour mettre un holà à leur volonté. Il y a vraiment cette volonté d'affaiblir la démocratie de l'eau, et notamment le rôle des commissions locales de l'eau avec cette loi, en donnant beaucoup plus de pouvoir aux préfets. Deux exemples. Un, sur l'article 5, c'est donner le droit au préfet d'encadrer les prélèvements en partant des moyennes des années précédentes. Deux remarques quand même là-dessus. Un, c'est donner encore plus de pouvoir au préfet, mais c'est surtout, on ne prend pas en compte, en faisant ça, y compris les surprélèvements dont on sait qu'ils sont récurrents. Et puis surtout, on ne prend pas en compte et on n'intègre pas la question du dérèglement climatique. C'est-à-dire que si on se fixe comme objectif des valeurs de prélèvement qui seraient autorisées les 10 années précédentes, alors que tout le monde dit et tous les scientifiques disent « Mais ouais, en fait, il y a un changement climatique, donc il va falloir l'intégrer. » Vous voyez bien qu'il y a un gros souci. L'article 6, qui est très grave, qui est vraiment une logique de reprise en main de l'eau par l'État via son représentant local, qui est le préfet, hein, c'est la possibilité de déroger au schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, notamment sur la question des mégabassines. C'est là aussi la difficulté et la force du macronisme, hein, en général. C'est quand même de nous enfumer constamment, de faire changer. Ils ont envoyé une version au Conseil d'État qu'ils ont auto-amendée quelques jours après. Là, tu dis qu'en fait, ils commencent à répondre à une faille ou en tout cas une interrogation. En tout cas, on a un but affiché de dire la démocratie, les commissions locales de l'eau qui regroupent des élus locaux, des représentants locaux, des activités économiques, des associations, etc., on va pouvoir s'essuyer les pieds dessus et le préfet va pouvoir faire ce qu'il veut. Et le préfet, bah, je vous ai raconté la Vilaine et puis on peut avoir plein d'histoires et vous le connaissez mieux que moi ici. Bah, il est très, très, très en lien avec l'agro-industrie. Donc, ils sont à l'offensive, mais on peut aussi lire cette offensive de nos adversaires comme la difficulté qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en difficulté, ils sont cornériser et ça doit nous donner d'autant plus d'énergie pour construire les mobilisations là dans les semaines qui viennent. Ça va aller vite et il va falloir qu'on soit assez déterminé.
Et voilà les amis, fin de la première partie de cette restitution de table ronde sur la politique de l'eau organisée à Mel le 28 mars 2026 par Bassine Nanmercy. Suite de ces échanges au prochain épisode avec la question comment faire face ? Car parfois, les combats écolos sont victorieux. À retrouver sur notre site polymixetlavoixoff.com et sur votre radio encore libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Nobasaran, salut.